Vous écoutez France Musique.
Merci Françoise de Georges.
Chemin rêvant, Olivier Nahum.
Bienvenue dans Chemin rêvant, merci de votre fidélité et merci à vous Claire Diterzi de venir pour ce partage au fil des étoiles. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci parce que l'album Le Salon des Refusés et ES est sorti il y a quelque temps déjà. On peut dire que vous avez vécu le temps de la promotion médiatique, l'album est là, offert au public, les concerts s'enchaînent et puis nous voulions vous recevoir à ces moments de l'après-sortie de l'album pour partager votre univers. Alors, dans vos racines, Claire Diterzi, il y a Tours, il y a la Loire qui coule comme ça, paisiblement. Et peut-être est-ce une question étrange, mais voilà, c'est comme ça, c'est l'inspiration. Est-ce que le cours de la Loire influe l'artiste, la musicienne que vous êtes?
Ça me fait plaisir, vous parliez de ça. C'est vrai que je suis tourangelle et j'aime beaucoup cette ville pour la Loire, justement. J'ai dû m'installer à Paris il y a quelques années pour des raisons personnelles et ça me manque. Et la Loire est sauvage à Tours, c'est très peu aménagé, c'est ça qui est beau aussi. On allait très souvent, je ne compte pas le nombre de barbecues et de fêtes qu'on a pu faire de feux de camp pendant mon adolescence au bord de la Loire, sur les sables.
Elle fait partie des souvenirs alors?
Bien sûr, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu poétoque de parler de ça comme ça, mais c'est vrai que...
Poétoque, oui.
Oui, je ne sais pas, ce n'est pas souvent un sujet qu'on aborde, mais oui, j'aime beaucoup cette ville pour la Loire.
Et alors, on doit aussi vous remercier, Claire Diterzi, parce que dans un entretien, vous aviez expliqué que votre voix n'aimait pas parler, elle préférait chanter. Et que parfois, parler, ça fatiguait plus que chanter.
Ça, je ne dois pas être la première chanteuse à vous le dire, non?
Ça dépend, parce que parfois, une fois qu'une aventure artistique est lancée, on aime bien prendre ce temps de voir le bébé évoluer, en l'occurrence l'album, de le voir grandir.
En tout cas, techniquement, je reprends ça, ce que vous disiez sur la voix. Moi, avec le genre de voix que j'utilise dans mes chansons, pour me reposer, je devrais parler tout le temps comme ça, par exemple, avec une petite voix de tête assez légère. Et là, par exemple, ça ne me fatigue pas du tout. Là.
On peut vous confondre avec d'autres célébrités. Mais, oui. Mais cela dit, dans l'histoire de Claire Diterzi, et quand la presse raconte votre parcours, il y a évidemment différentes étapes, mais il y a, à propos de Racine, cette mère ouvrière. Et on a le sentiment, puisqu'on est en quelque sorte au début de l'histoire, qu'elle transmet des valeurs qui servent encore aujourd'hui dans votre métier de chanteuse.
Mais c'est malgré moi, malgré elle, tout ça, on en a tous notre histoire. Et quelque part, le fait d'avoir grandi dans un milieu où la musique n'était pas accessible, il n'y en avait pas dans la maison, il n'y avait pas de livres. Quelque part, j'ai été assez fascinée rapidement par des gens, justement on parlait de la Loire il y a deux minutes, la Loire sépare le centre-ville de Tours-Nord, la zone industrielle où j'habitais, où ma mère travaillait en usine. Et j'ai mis beaucoup de temps à prendre un bus pour passer cette fameuse Loire et retrouver mes amis, le père de ma première fille et les musiciens de mon premier groupe punk, Forget Me Not. Et c'était des instruments à cordes, un contrebassiste et une violoniste, Julie Bonnier, Sylvestre Perrusson, qui venait de famille bourgeoise et qui pratiquait les instruments dans l'art, comme il faut, au conservatoire, avec une vraie appréhension de l'instrument classique, quoi.
Mais alors, c'était vous l'outil de la transgression? Parce que eux, ils avaient une formation classique qui allait prendre des routes un peu plus énergique que l'enseignement reçu au conservatoire.
C'était quand même l'époque alternative, fin des années 90, début des années 90, et le rock était dans l'air. Il y avait beaucoup de festivals, et même les gens dont je viens de parler écoutaient du jazz dans leur famille. Ils avaient au contraire une culture très large. Ils écoutaient beaucoup de choses. Ils avaient des grands frères qui avaient des vinyles de Jesus and Mary Chain, de groupes quand même. C'était pas un milieu classique pur et dur, mais j'y avais cette pluridisciplinarité qui m'a beaucoup, au début, beaucoup intimidée, à vrai dire. Out in the garden, there's hope for the heaven, and we're only bluffing. We're not ones for busting through walls, but they've told us unless we can prove that we're doing it, we can have it all. He's gonna wangle a way to get out of it. She's an excuse and a witness who'll talk when he's called. But they've told us unless we can prove that we're doing it, we can't have it all. We can't have it all.
France Musique, la voix de Kate Bush, avec ce Suspended in Gaffa. Donc en fait, elle nous conte une situation extrêmement étrange, mais si on devait traduire le titre, il serait question d'être suspendu à une espèce de ruban adhésif, le même qu'utilisent parfois, les techniciens pour recoller des bandes dans le monde sonore. Alors Kate Bush, elle vient comment dans l'histoire de Claire Diterzis et c'est une femme héroïne, un de ces maîtres auxquels on voudrait ressembler peut-être.
C'est une référence qui est souvent citée par les chanteuses, donc je m'en méfie souvent, mais moi, ce qui est important, c'est l'âge auquel j'ai entendu cette chanson. Je ne sais pas si elle date de 81 ou 82.
J'avais 84,
11,
oui.
Voilà, j'avais 12 ans, 12, 13 ans. Et j'ai écouté ça chez mes cousins voilà, qui venaient de s'acheter le 45 tours à l'époque. Et j'ai eu un vrai choc. Je me suis assise, les yeux écarquillés, la bouche bée. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ça? Comme un énorme cadeau, une surprise, une vraie révélation. Donc après, j'étais pas à l'époque du tout portée sur la musique ni quoi que ce soit. Ça aurait pu être une peinture, une œuvre quelconque. Mais cette chanson, je pense qu'elle a vraiment déclenché beaucoup inconsciemment de choses.
Alors, petite précision, c'est 1982, effectivement.
82, alors, j'étais un peu plus petite. 11.
La sortie du titre, et peut-être aussi que cette chanson nous livre un indice qui comptera plus tard quand vous allez vous mettre à la chanson, c'est qu'une chanson ne doit pas forcément être compréhensible. Mm-hmm. Parce que si on s'amuse à traduire les paroles de ce que vient de nous dire Kate Bush, on a des passages comme « Maman, où sont les anges ?»« J'ai peur que cela change. »« Soudain, mes pieds se dérobent. »« Tout va au ralenti. »« Je ne sais pas pourquoi je pleure. » suis-je suspendu à un ruban adhésif. On est dans une espèce de situation incongrue. Et le fait de dire à l'auditeur « Je vous livre une chanson apparemment accessible, mais pleine de mystère », est-ce que ça ne frappe pas votre inspiration, Claire Diterzy?
Alors déjà, il y a une réelle injustice, c'est que c'est de l'anglais. Et quand on chante, les gens ne traduisent pas forcément l'anglais en l'entendant. Ils n'en ont pas forcément besoin. Par contre, dès qu'on s'exprime en français en France, les gens ont besoin de comprendre de quoi ça parle, ont besoin de palper le moindre mot. C'est pour ça que c'est difficile d'écrire en français.
Vous avez dit effectivement que ça a été un choc, une révélation, quand Kate Bush débarque comme ça, un peu par surprise. Mais alors, le lien avec la guitare, parce que quand on vous caractérise, on verra un peu plus loin qu'il y a des instruments classiques. Nous sommes sur France Musique, mais il y a d'abord Madame Gibson, la fameuse guitare électrique. Alors, elle s'invite comment dans...
Mais la guitare, en fait, je pense que c'est l'instrument du pauvre, hein, quelque part. Moi, j'ai appris à jouer de la guitare en colo. J'ai, je sais pas, 8-9 ans, on se passait la guitare autour du feu de camp, le soir, dans les veillées, et je chantais « C'est une maison bleue !» comme tout le monde. J'ai appris les accords avec les petits livres Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En un mois, je savais gratouiller, on va dire. Après, j'étais très handicapée par cet instrument que je trouve très commun. Et le fait de jouer dans un groupe de rock, déjà je suis passée à la guitare électrique, qui est un son qui me correspondait beaucoup plus, qui est beaucoup plus incisif et griffant. Et j'ai créé mon open tuning, j'ai désaccordé la guitare pour avoir sans mettre les doigts dessus, c'est-à-dire un accord à vide qui me touche beaucoup. Et je joue encore 20 ans après sur cet open tuning et j'ai dû réinventer tous mes dédoigtés adaptés à cette...
Donc vous ne jouez pas avec mi la ré sol si mi, c'est
exactement.
Des cordes en mi aussi, en si, au gré de votre inspiration.
Exactement, parce que ça me désespérait, je trouvais que tous les accords ressemblaient comme j'ai peu de pratique, la guitare c'est très riche aussi quand on a une main gauche, quand on est droitier, une main gauche sur le manche qui connaît toutes les combinaisons possibles d'accords, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais moi, dans l'urgence, j'avais trouvé comme ça cette formule magique c'est un instrument qui est devenu le mien parce que je l'ai bidouillé. C'était mon côté prolo, peut-être, je ne sais pas.
Alors, côté prolo ou pas, that is the question, comme dirait qui de droit. Mais alors, quand on s'intéresse à toutes les influences, à tous les ingrédients qui vous construisent, Claire Diterzy, on trouve souvent, et presque pratiquement tout le temps, évoqué une certaine Linda.
Their tails are all matted, their is what she died in a poom fight, and still he keeps singing the morning to night. Ride around, ride around real slow, where the fiery and the snuffy are raring to go. Our faces to the west, and we'll ride the prairie that we like the best.
Ride around, ride around real slow,
where the fiery and the snuffy are raring to go.
Ride around, ride around real slow,
where the fiery a rare in the gold.
Voici la chevauchée proposée par Linda Ronstadt avec cette chanson traditionnelle Old Pent sur un album qui date de 1977. Voilà, cette chanteuse américaine country qui est souvent citée pour raconter vos moments de prédilection, en tout cas au début avec la musique. Alors on se pose assez naïvement peut-être la question, comment vous faites connaissance avec votre mère à l'époque? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même une référence qui est éloignée du quotidien à Tours, mais peut-être que...
Oui, mais bien sûr. Oui, ça, mais ce qui était marrant dans ma famille, c'est que ma mère avait trois sœurs et un petit frère. Ils étaient très proches les uns les autres et ils se refilaient les disques. Donc quand l'une achetait quelque chose qui lui plaisait, il faisait le tour de la famille. Et Linda Ronstadt a fait partie de ça. C'était un 33 tours, donc je le connais par cœur. J'étais toute petite, mais ce qui m'a émerveillée là-dedans, évidemment, il y a un côté un peu... aujourd'hui, avec le recul que je trouve un peu gnangnan, le côté vraiment un peu mièvre et le mot joli que je déteste, mais c'est ça qui me plaisait à l'époque. J'avais 6 ans et je me disais, qu'est-ce qu'elle chante bien. Je veux être chanteuse, je veux chanter comme elle. Et le fait de le chanter sur ses chansons, je me faisais plaisir tout simplement. Il y a une autre chose qui m'a fascinée dans ce disque, c'est la slide guitare. Le bottleneck qui coule comme ça sur le... Je trouvais ça vraiment d'une sensualité, d'une chaleur. Et ça m'a beaucoup influencé, particulièrement dans la BO du film que j'ai réalisé pour la production de Jean-Jacques Benex, dont on parlait hors antenne,
puisque Jean-Jacques Benex nous avait parlé de vous aussi hors antenne quand il était venu à Chemin Rêvant. Donc en fait, les liens se creusent par émission interposée. Donc elle concourt comme ça à semer cette prédilection pour la guitare et pour la musique. Mais quand tous ces ingrédients s'accumulent, vous n'avez pas encore de choix précis, parce que la chanson s'appelle Old Pent, mais vous êtes aussi très marqué par la peinture. C'est... quelque chose qui va nourrir un album, d'ailleurs, un précédent album. Donc la peinture, elle se fait au même moment, c'est-à-dire que vous découvrez tous les arts, toute la puissance des messages artistiques en même temps?
Non, j'étais toute petite, là.
Oui, mais des fois, hein, à 6 ans, à 7 ans, vous avez croisé la Joconde, non. Et puis ça y est, vous allez être peintre, chanteuse.
Oui, non, mais je pense que dans mon cas, où on n'a pas une éducation très marquée, avec des parents très influents... et aucun lien avec la culture. Je veux dire, moi, j'ai glané les choses, tout ce que j'ai pu, même au niveau architectural, au niveau des odeurs. J'aime pas le carrelage parce que j'habitais en HLM et il y avait que ça. Tout fait partie d'un tout. Donc c'est pour ça que faut les dissocier. En même temps, c'est toujours gênant pour moi de dire ah bah ça, c'est vraiment une référence qui m'a beaucoup influencée. J'ai fait ma sauce. C'est comme on disait ça aussi en antenne, comme pour apprendre à chanter. J'aime pas trop les méthodes.
C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous êtes rendu compte que vous aviez beaucoup de possibilités avec votre voix. Mais ça a été une découverte solitaire, si j'ose dire.
Grâce à Linda, par exemple, quand même. C'est vrai, quand on chante les chansons de Linda, je l'appelle Linda comme une copine.
Oui, elle vient ce soir, donc c'est une amie.
On va boire un coup après.
Voilà. Au salon.
Oui, c'est sûr qu'on découvre à un moment qu'on a plus, voilà, une certaine facilité à faire les choses. Donc après on pratique, mais...
Mais quand on chante, par exemple, accompagné par une viole de gambe, ce qui n'est pas commun quand même, surtout quand on fait de la musique rock, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit quand même, je vais faire des cours de chant. Vous avez fait des cours de chant, voix, piano. Ça vous a apporté quelque chose ou c'était...
Oui, bien sûr, ça m'a apporté quelque chose. J'ai pris des cours, comme beaucoup de chanteurs de rock, à un moment où j'étais fatiguée vocalement, épuisée par la batterie, par les tournées, à une époque où les gens fumaient dans des petits clubs, c'était assez éprouvant. Donc j'ai pris des cours pour le confort, pour essayer de comprendre un petit peu mon organe, savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment je peux faire ça sans être à fond le lendemain. Voilà, et c'est pareil, j'ai pas pris de cours de façon durable, j'ai glané, j'ai fait quelques stages, mais j'avais pas besoin, je suis passée entre les mains de plusieurs profs, j'aimais bien l'art lyrique pour ça. Parce que franchement, je trouve que c'est jouissif de chanter. La technique lyrique est vraiment fantastique. Mais il me paraît que ce que je disais par rapport aux références musicales, j'ai fait ma sauce avec ce que j'ai appris de d'un tel. Ah bah lui, il dit faut mettre la bouche comme ça. Lui, il dit faut respirer comme ça. Lui, il dit prends conscience de ton dos, etc., etc.
Et c'est l'addition après.
Et voilà. Mais par contre, moi, je serais incapable de transmettre. Il faudrait que je réfléchisse beaucoup pour transmettre. La façon dont je chante pour pouvoir la faire pratiquer à quelqu'un. Parce que c'est quand même technique. Mais...
À l'ombre des longs pins parasols.
corps étranger. Vous étiez, Claire Diterzy, à la voix, avec aussi, il y a cette guitare, il y a cette viole de gambe, Christine Pailleux, les percussions Étienne Bonhomme, la guitare Jean-Baptiste Savary, et puis violoncelle Vincent Segal, et la flûte de Magic Malik.
C'est ça.
Cet extrait de l'album, le Salon des Refusés, EES.
Alors, c'est important ce petit E.
Ah, c'est très très important, parce que c'est
Il
fait tout. Et puis il raconte beaucoup d'histoires, et peut-être aussi qu'il est, comme vous le dites souvent, une catharsis, parce que la conception de cet album, elle est encore nourrie de traumatismes et de la dureté de la vie. Mais avant d'en venir à cet aspect-là, la viole de gambe, c'est un instrument allié, c'est un instrument fétiche, en plus de l'amitié qui vous lie à Christine Pailleux.
Voilà, on est très amies déjà, très amies toutes les deux à Tours. On s'est rencontrées à l'école au travers de nos filles, par hasard, à la sortie de l'école. Et on a eu très envie, très vite, de faire de la musique ensemble. Et j'ai trouvé que ce projet, on n'avait jamais concrétisé par un album. Mais là, ce projet, la chanson qu'on vient d'entendre, on a quitté la Loire, on est sur le Tibre, là, on est à Rome. Hein. On est sous les pins parasols dans la Villa Médicis. Et c'est un endroit tellement chargé d'histoire qui, sans arrêt, nous confronte au passé, en termes d'architecture, en termes de sculpture. Et en termes de musique, j'ai mis les pieds là-bas. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la viole de gambe, un instrument pour moi qui vient du passé, qui est complètement. Et qui a aussi un ton qui me plaît beaucoup, qui est dans la complainte, qui a une couleur, une sonorité très, très nasale et très, très lamentative. Je ne sais pas s'il existe ce mot, mais.
On va l'inventer pour
ça. On va l'inventer. Oui, dans la lamentation, et ça me. Ça me plaisait beaucoup, ça correspondait à l'état dans lequel j'étais là-bas, avec le mal du pays un peu. Et comme ça, plus trop savoir à quelle époque on était, parce qu'on est hors du temps, dans un endroit magique comme ça.
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup glosé, on a beaucoup écrit sur le fait que vous avez été pensionnaire à la Villa Médicis, que, comme peut-être certains l'avaient prévu, ça n'a pas suscité que de l'adhésion, puisqu'on a dit une chanteuse à la Villa Médicis, oh mon Dieu, quel scandale! Et d'ailleurs, ce passage à la Villa Médicis a permis aussi la création de cet album, Le Salon des Refusés. Mais est-ce que par-delà toutes les critiques qu'il a fallu affronter, toute la résistance dont il a fallu faire preuve, est-ce que vous gardez encore cette surprise dans vos tripes, dans vos veines, et même peut-être une colère parce que, après tout, vous êtes humaine?
Au début, ça m'a fait un peu sourire. Après, j'ai été très blessée. Parce que ça s'attaquait vraiment à moi de façon personnelle, sur mon physique, sur mon travail, que les gens n'avaient pas réellement pris le temps de comprendre. Ils mettaient comme ça le nez dans une démarche, vulgairement, en cliquant sur YouTube, hop, en réglant mon compte en 2 secondes. Bon, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup blessée. Et au final. Il y a aussi beaucoup de tristesse qui est ressortie pendant la villa pour plein de raisons différentes. Parce que je trouve que c'est un cadeau, déjà, de pouvoir. D'une part, c'est un cadeau déjà de pouvoir bénéficier d'une résidence comme ça dans des conditions incroyables. C'est vraiment une chance. Mais en même temps, c'est une épreuve. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui renvoie à soi sur beaucoup de plans. Sur le plan personnel, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'amante, en tant qu'artiste. Donc c'est vraiment en tant que fille aussi, donc par rapport à sa famille, tout y passe. C'est une espèce de psychanalyse réduite qu'on se fait tout seul, loin de déraciner, loin de ses proches, loin de ses repères, sur une période très courte. Donc c'est pour ça, le Salon des Refusés, il a fallu que je digère cette espèce de polémique qui m'a beaucoup attristée finalement, parce qu'elle révélait surtout, pour moi en tout cas, j'ai vu beaucoup, certes du mépris, mais surtout beaucoup de méconnaissance de la part du monde de la musique contemporaine, de méconnaissance vis-à-vis de mon univers, de la musique actuelle, du rock et de la chanson.
Est-ce que vous ne pensez pas aussi que cela révèle le fait que il est difficile, dans l'époque actuelle, d'être une militante de l'anachronisme. Parce que, d'une certaine manière, vous êtes l'ambassadrice de l'anachronisme. Vous faites cohabiter des instruments que l'histoire ne pensait pas un jour réunir.
Mais je m'amuse beaucoup avec ça, la chanson La vieille chanteuse de l'album Tableau de chasse. Pareil, j'étais Yvette Guilbert sur une chanson que m'avait inspirée Toulouse-Lautrec. Et je m'amuse comme ça, effectivement, à décaler les chansons dans le temps. Je me sens plus proche, certes, d'une Colette Renard ou justement d'Yvette Guilbert que Lara Fabian ou Rihanna, c'est clair.
On marque tant mieux pour nous.
Tant mieux pour nous. Je ne sais pas. Pour moi, c'est sûr que c'est difficile parce que le public, il aime bien... Voilà, la chanson, c'est quand même un forme. On sait un pays qui est quand même très... Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais les choses sont très clivées. Et... C'est très difficile de... Voilà, quand on goûte aux fruits défendus, on le paye très cher. Et moi, j'ai l'impression, au contraire, j'ai la chance de pouvoir faire ce métier, de gagner ma vie pour dire et chanter ce que je pense et ce que je ressens. Donc, ça dérange, parce que notamment le Salon des Refusés, qui est peut-être mon album le plus personnel, le plus intime, le plus douloureux. Mais ce métier, il sert à faire des expériences, à sortir un peu des clous pour aller voir ce qui se passe à côté. Donc, la viole de gambe, je trouve ça incroyable. On s'est tellement amusé à la confronter avec ma guitare électrique. Et sur scène, on s'amuse beaucoup. Ça marche très bien.
Vous écoutez Chemin rêvant, Olivier Nahum, sur France Musique.
Alors là, vous nous avez amené à redécouvrir ou à découvrir ce génie Tom Cora, violoncelliste particulier, on va dire, dans cette formation The X avec Tom Cora et dans l'interprétation d'une chanson traditionnelle hongroise où il est question de vent froid, d'oiseaux en liberté. C'est une sorte de comptine, mais pris sur un versant apocalyptique et incontrôlable. Alors, est-ce que c'est la folie d'ailleurs de ces mélanges qui vous séduit, puisque vous avez la viole de gambe qui se marie avec la guitare électrique, et là on a le violoncelle qui se nourrit de psychédélique. Qu'est-ce qui vous transporte dans cette rencontre ?
Il faut le resituer.
Resituons, vous êtes là pour...
Oui, justement, mais je ne peux pas dire de bêtises. Il me semble que c'est 90 des bananes, quelque chose comme ça. Et ça, c'est ce que j'ai écouté. C'est pareil, c'est un... Et j'ai eu la chance de jouer avec ce groupe, hein, The X, qui est un groupe hollandais. Moi, j'écoutais ça à l'époque des tournées avec mon groupe post-punk Forget Me Not. Et on avait un peu cette formule violon, contrebasse, et moi, la guitare électrique, batterie, percussion. Et on chantait. Et c'est ce qui m'émerveille là-dedans, au-delà des belles choses que vous venez de dire, c'est surtout l'énergie aussi, l'énergie musicale qui s'en dégage, cette hargne, ce besoin de crier, cette créativiter.
Oui, allons-y, allons-y. On n'arrête pas la créativité. Les auditeurs sont là après pour remanier.
Ouais. Bon, ça, la guitare, ça m'a beaucoup influencée. C'est vraiment une époque de ma vie. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à réécouter ça. Et quelque part, effectivement, la viole de Gambet, la guitare, j'ai du mal à la violer, justement, pour l'amener dans les choses rythmiques. Mais c'est ce qu'elle adore chez moi, dans notre collaboration. C'est pas facile, parce qu'elle n'a plus non plus l'âge qu'on avait dans les années 90. Hein. Quand même 57 ans, Christine. Et pour ça la fascine, c'est toujours une petite fille, elle a envie de transcender son instrument qui lui pèse. Le baroque, elle en a fait énormément au plus haut niveau. C'est une incroyable musicienne. Et ce qui me plaît chez elle, c'est ce décalage. C'est qu'elle est toujours prête à prendre des risques et à remettre en question son art et à chercher ailleurs.
Alors, vous cherchez ailleurs, vous aussi, quand vous vous trouvez, par exemple, à cette Villa Médicis, que vous commencez à avoir les premières inspirations pour un album, qu'il va falloir effectivement digérer, est-ce que vous cherchez ailleurs presque une énergie supplémentaire, une faculté de résistance, j'allais dire presque hors du commun, parce que vous livrez un album atypique, vous sortez d'une polémique, mais vous continuez votre chemin. C'est quoi? C'est de la résistance? Il y a un côté athlétique? C'est...
Tous les mots que vous venez de dire, ils sont très beaux. C'est vrai que c'est pas bête, les belles émissions comme ça, après le rush de la sortie, de la promo.
Oui, nous, on vient après, vous voyez.
C'est pas mal.
On dresse...
C'est vrai que la Villa Médicis, c'est un endroit de recueillement qui sert à réfléchir, à se positionner sur ce que je disais tout à l'heure, hein, sur son art. Donc, c'est aussi dangereux. Je trouve, parce qu'à un moment, on peut aller trop loin, où j'ai eu peur de me perdre. Et surtout, je me suis retrouvée toute nue.
Parce que vous dites, dans un entretien consacré à votre aventure à la Villa Médicis, alors qu'on imagine des mondanités, des rencontres, vous décrivez presque une vie monacale, presque séminariste.
Exactement.
Peu d'échanges avec les autres, finalement. Vous êtes très isolé.
C'est les deux. Il y a une forte... forte rencontre humaine, c'est le plus important, avec les autres pensionnaires. C'est très, 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 très fort et très durable. Mais effectivement aussi un retranchement par rapport à soi, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à soi en tant qu'être humain et en tant qu'artiste. Et je me suis retrouvée avec ma guitare électrique, j'avais l'impression effectivement d'être une nonne punie en réclusion, dans un monastère. Et je voulais à la fois pleurer et ma voix n'a jamais été aussi douce et les mots aussi limpides et clairs, parce que je voulais qu'on me comprenne. Et en même temps, ma guitare, elle est violente, normalement. Donc j'étais dans plein de paradoxes comme ça, qui étaient intéressants. Et je voulais pas mentir par rapport à ce dit. C'est pour ça qu'il est peut-être pas facile à... Il faut du temps pour le comprendre, il faut bien écouter les paroles. Mais j'avais envie d'être honnête avec ce que je vivais là-bas, dans ma façon de le retransmettre et de le retranscrire en musique. Je voulais que ce soit dépouillé et effectivement dans la résistance, dans le sens où si j'avais rien fait là-bas, j'aurais fait une dépression ou je m'en serais trop voulu. Je ne pouvais pas rentrer bredouille, c'est impossible. C'est pour ça que je disais que c'était une épreuve, la Villa Médicis. C'est très difficile d'y rentrer, mais c'est très facile d'en sortir. Sauf qu'on s'est mis une telle pression et on est tellement nourri des rencontres humaines et de la ville, de l'art, de tout ce qui émane de cet endroit et de cette année hors du commun, qu'on est obligé de se rendre des comptes à soi-même, à son art, aux gens qui nous aiment. Et je pense que oui, cet album sert à ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois mon art, quoi.
Oh,
Vous l'avez compris, ce soir sur France Musique, nous sommes conviés à un voyage musical inattendu, surprenant, Cocteau Twins. Evo, c'est une chanson qu'on ne se risquera pas à traduire, une sorte de jeu de mots. Il y a une sorte de point commun de sonorité de mots. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir sur Internet toutes les spéculations qu'il y a autour du sens caché de ces paroles. Est-ce que c'est une invitation à un conte mystique? Est-ce que c'est une invitation à la rébellion? Est-ce que c'est quelque chose qui parle d'un peuple en colère? C'est autant de questions que pose cette chanson et on reste avec le mystère. Alors c'est ce mystère qui vous plaît?
En tout cas, les belles choses que vous venez de dire pour décrire la chanson, moi je les ressens énormément dans sa voix. La façon incroyable dont cette chanteuse utilise sa voix en passant du grave à l'aigu. On est tout d'un coup sous terre et dans l'au-delà. C'est un vrai chemin rêvant. C'est très puissant et en même temps très doux. Et c'est ça que j'aime beaucoup.
Il y a quelque chose de messianique en plus dans ce chant. On ne sait pas si on attend ce Ivo, cet horizon inatteignable, une quête du Graal subliminal.
On y va en tout cas.
Elle vous a emmené là quand vous l'avez écoutée la première fois?
Cette chanson, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter? Oui, mais ça date aussi. Hein. On est dans les années 80, je crois, non? Un peu après.
Mais c'est pas grave.
Peu importe. Non, mais j'aime pas du tout faire mon encyclopédie. Je déteste ça. Par contre, là, je pense que c'est important parce que j'ai besoin de savoir quel âge j'avais quand elles m'ont marqué les chansons. Pour pas dire de bêtises.
Donc là, on est dans les années, 80. 84, voilà. Françoise et Michel, de l'autre côté de la vitre, sont aussi des encyclopédies vivantes, on les remercie.
C'est les maîtres Capello.
Voilà, les guides, les gardiens du temple. Alors 84.
Voilà, j'avais une petite vingtaine d'années, et c'est vrai que c'est vraiment l'époque New Wave dans toute sa splendeur. Et j'aime bien cette puissance rythmique, et c'est un groupe qui m'a fait beaucoup de bien, dans la sensualité aussi.
La sensualité, c'est un mot que vous aimez bien.
Mais oui, je trouve que ça manque beaucoup. Je trouve que la voix, c'est quand même l'instrument le plus sensuel du monde, non?
Ah oui, sans nul doute.
Ça me manque beaucoup dans la grosse variété pure et dure. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est plutôt comme ça, les choses un petit peu...
Et alors, quand vous écrivez, quand vous composez, les mots, ils viennent comment? La musique, c'est toujours un miracle, une chanson, de toute façon.
C'est vrai que c'est un petit miracle, oui. Et j'avais cette discussion avec mon amie, la chanteuse Daphné. On parlait de ça et elle s'étonnait d'elle-même de savoir comment elle allait pouvoir pérenniser cette capacité à sortir comme ça un petit bijou. On a toujours peur que ça s'arrête. Moi, je ne sais pas. Alors après, il y a beaucoup de travail, c'est sûr, mais il faut quand même toujours la matière première, l'envie, la volonté, le courage d'aller chercher quelque chose qui vaut le coup d'être travaillé.
Mais dans le salon des refusés, quelle est la première chanson qui est venue dans toutes celles qui sont données à offrir?
C'est Nature morte.
C'est Nature morte.
Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait écouter à mes musiciens, personne ne m'a répondu. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop triste. Et Nature morte, parce que je sortais d'une relation amoureuse très difficile.
Donc on était dans une période de rupture.
Exactement, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Rupture avec mon pays, avec mon art, je ne savais plus. Je savais qu'il fallait... Il fallait travailler plutôt sur les textes. Nature morte. Et après, le salon des refusés. La chanson, le salon des refusés, avec la viole et la guitare que j'ai essayé de travailler comme un luth. C'est une guitare électrique, mais qui sonne vraiment d'une façon un peu baroque.
Nu, mais tu ne le voyais pas.
Nous avons osé diffuser cette nature morte qui avait primitivement effrayé vos musiciens, Claire Diterzi, où là, effectivement, on a un long moment de viol de gambe, une rencontre. Mmh. Et surtout, c'est une chanson qui souligne... alors, il y a plusieurs degrés de lecture, mais en tout cas, ce lien avec la peinture. On en a parlé au début de l'émission, mais alors comment il s'est tissé au point de se transformer en chanson ?
J'ai déjà eu le premier contact avec la bibliothèque de la Villa Médicis grâce à cette chanson. Je suis allée emprunter tous les livres sur la nature morte qu'elle avait. Et j'ai regardé les tableaux que j'aimais bien et ça m'a beaucoup inspirée. Cette chanson, elle a aussi une connotation très sexuelle.
Elle parle d'une impuissance.
De l'impuissance masculine, oui.
C'était une forme de...
Une vengeance.
Oui, je vous ai pas employé le mot de vengeance par rapport au passé.
J'ai commencé par régler mes comptes en arrivant à la villa.
Là, c'est une sorte de catharsis, on lave ses mauvaises pensées.
Pour moi, la chanson, ça sert à ça, heureusement qu'il y a ça. Ouais. Moi, j'aime bien les textes qui sont un peu consistants, quoi. Enfin, qui racontent vraiment d'une façon comme ça, charnelle, très sexuelle aussi. Il y a beaucoup de mots du corps dans mes chansons.
Et alors, vous parlez des mots du corps, mais est-ce à dire que c'est un héritage qui vient aussi, un enseignement du travail que vous avez fait avec Philippe Descoufflé, de devoir finalement vous trouver confronté à ce monde de la danse, qui est un monde sans mots, M-O-T-S.
Absolument, absolument. J'adore les danseurs parce qu'ils font pas de bruit. C'est dingue. Et c'est aussi, je pense à la particularité de mon parcours, elle est là. Elle est que je fais de la chanson, mais pas dans le milieu de la chanson. Et travailler avec les danseurs et aussi de travailler énormément sur la sculpture et la peinture et le dessin, parce que dans le dessin aussi, il n'y a pas de bruit, c'est silencieux. Je pense toujours au croquis, quand cette chanson particulièrement, elle est très... Je me voyais dessiner en écrivant les mots. C'est mettre la musique sur du silence, une image ou un mouvement, l'image d'une œuvre d'art, une sculpture, une peinture, un croquis ou le mouvement d'un danseur, c'est un vrai bonheur.
Quand vous parlez de vos chansons, vous employez souvent cette expression « mon art face à mon art, on se retrouve face à son art ». Mais
c'est prétentieux, non ?
Non, c'est pas prétentieux. Ce que j'allais vous demander, c'est qu'elle se représente comment, en fait, son art, votre art ? Est-ce que vous voyez vos maîtres, vous voyez des gens que nous ne connaissons pas et qui sont peut-être pas connus, mais qui ont été des passeurs, des transmetteurs de savoir ? Est-ce que c'est un autre vous-même ? Est-ce que c'est une déesse de la musique ?
C'est une belle question. Je pense que c'est tout simplement... j'aimerais éviter le mot chanson. Et d'ailleurs, sur les fiches d'orientation des enfants... quand on leur demande ce que font leurs mères ou quand je dois remplir toute l'administration pour mes filles, où j'ai eu à le faire, profession de la mère, chanteuse, j'ai toujours un petit peu honte. J'assume.
Et pourquoi ça ?
Eh bien justement, la question est intéressante pour ça, parce que je trouve que c'est un mot et un métier qui sont un peu galvaudés par, je sais pas, par ce qui se passe par la télé. Je ne me sens pas chanteuse, je me sens plutôt une faiseuse, oui, une
créatrice,
une vocaliste. Puis dans le mot chanteur, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas la dimension de l'écriture. Et moi, je me sens plus, je suis plus guitariste. On ne parle jamais de ma guitare, à part vous, ce soir, mais jamais, parce que peut-être je suis une fille. Jamais on me parle de ma façon de jouer de la guitare, c'est très rare, alors que c'est ce qui fait toute ma musique.
Et mon j'en ai marre.
le roi des forêts qui ouvre le salon des refusés. Donc vous voyez, dans Chemin Rêvant, on commence par la fin et on finit par le début. On est vraiment dans un chemin de traverse.
Qui va clore votre émission.
Qui va terminer cette émission en votre compagnie, Claire Diterzy. Cela dit, ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est qu'elle couvre cette faculté qu'imprime l'album. Et je vous le disais d'ailleurs avant que l'on commence l'émission, cette faculté de transformer un épisode difficile, même une forme de harcèlement, en quelque chose de positif. Une sorte de détachement. C'est ce que vous avez ressenti d'ailleurs une fois que l'album est parti, qu'il était composé, enregistré. Vous avez senti cette libération, cette sorte de détachement?
Mais je vais vous surprendre, mais cette chanson, je l'ai écrite en rentrant de la villa. C'est la dernière que j'ai écrite.
Elle ne pouvait que se construire au retour de la ville.
Voilà, j'ai eu envie de crier, parce qu'en fait, c'est aussi un album où je pense particulièrement à la chanson Renaissance, qui est assez particulière aussi, très lente. Comme le temps à Rome, la chaleur, le temps à cause de la chaleur s'étire à l'infini, on ne le voit pas vraiment passer. Donc il y a des chansons qui sont très lentes. J'avais besoin d'une urgence et de dire. J'avais besoin de paroles, de mots, d'être bavarde. La chanson Renaissance parle du silence aussi, des noms. C'est aussi un album sur. J'ai voulu en tout cas parler de choses qui m'ont beaucoup fait souffrir dans ma vie. C'est des trahisons. On a tous nos problèmes relationnels, mais des trahisons, des relations qui s'arrêtent dans les non-dits. Alors, hop, je ferme la porte et ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a beaucoup choqué. De réfléchir là-dessus. Et justement, avec cette chanson, je suis rentrée à Paris, j'avais l'impression d'avoir réglé mes comptes avec. D'avoir dit à la place, d'avoir dit pour deux ou trois, quoi.
D'avoir formulé ce qui n'était pas encore sorti, finalement.
Déjà en moi, et puis oui. Formuler. Moi, je le trouve courageux, mon disque. Je le trouve engagé, je le trouve.
C'est bien ça.
Comme gonflé.
C'est bien. En tout cas, écoutez, si on ne pensait pas que vos chansons sont engagées et courageuses, vous n'auriez pas été présente ici ce soir. On est quand même cohérent avec nous-mêmes. Donc nous allons saluer l'équipe qui nous a emmenés ce soir, Michel Mestre, Françoise Cordet et Anna Casserine. Nous vous remercions, Claire Diterzy.
C'est moi qui vous remercie de la qualité de ces questions.
Ah, c'est gentil.
Beaucoup de plaisir à réfléchir.
Vous savez dire bonne nuit en italien
ou... Ah, buonanotte.
Ah, voilà, c'est notre conclusion.
Sogni d'oro, fai dei bei rêves.